Eh bien, mes amis, j'espère que tous vous êtes installés le plus confortablement possible et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette clairière dite des Indiens et qui est devenue pour nous notre cathédrale. Cathédrale à ciel ouvert, voyez le dôme. Et nous voulons croire que d'en haut, descendront sur des cœurs ouverts une plénitude de bénédictions. Je veux croire que, après notre introduction d'hier soir, vous avez déjà demandé certaines choses, puisque le Seigneur Jésus vous autorisait à demander. Nous voulons croire aussi que vous avez osé frapper à la porte de son cœur, et que déjà, ce cœur, vous le sentez ouvert pour que vous puissiez y entrer et désormais dans ce monde, vivre dans son cœur. Je veux croire aussi que vous êtes dans un esprit de recherche. C'est une des accusations que le Seigneur porte contre les pécheurs. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Bien, nous voulons croire que vous êtes aussi de ceux qui cherchent et qui croient déjà la promesse qui a été soulignée hier soir, que celui qui cherche, il trouve. Alors nous allons implorer maintenant encore sa bénédiction. Ô Dieu, dans ce lieu que tu avais choisi et que tu nous as prêté, nous te louons et nous te bénissons pour ce nouveau rassemblement. Tu nous vois tous et toi qui connais les étoiles par leur nom, tu nous connais aussi, chacun de nous, par nos noms. Tu sais tout de nous. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Et ce que nous savons de toi, ô notre Dieu, c'est que tu nous aimes. Tu nous l'as dit déjà plusieurs fois dans ce début du camp. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as toujours aimés. Et ce que nous savons, en ayant répondu à ton cœur, nous savons que tu nous aimeras toujours. Et que rien ne pourra nous séparer jamais de ton amour. Et tu nous as donné, en attendant que nous soyons chez nous là-haut, tu nous as donné ta parole. Sur cette terre où de plus en plus nous nous sentons étrangers et voyageurs, tu as voulu nous donner une parole vivante qui nous permet de te connaître, de nous entretenir aussi avec toi. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, touche aussi notre conscience pour que nous puissions t'entendre, nous parler directement, sans intermédiaire. C'est le cri de notre cœur. Et nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, nous serons exaucés. En Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, en cette matinée du 19 juillet, nous poursuivons déjà notre thème qui donc est Dieu. Et comme nous vous l'avons annoncé dans les prospectus, c'est en nous nourrissant du livre du Cantique des Cantiques que nous rechercherons à connaître ce que Dieu peut être pour nous, ce que Dieu veut être pour nous, si nous consentons à une union avec lui, à une union qui a lieu sur cette terre, qui en quelque sorte nous rend les fiancés du Christ. Sachant que les noces spirituelles seront consommées dans le ciel. Et nous voudrions être de ces hommes et de ces femmes qui sont déjà la possession de Dieu sur la terre et qui se préparent en vue de ces noces qui sont appelées dans l'Apocalypse les noces de l'agneau. Il est dit que son épouse, sa femme, s'est préparée et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur, le fin lin étant la justice des saints. Certes, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la pure grâce de Dieu, mais nous devons nous souvenir que la foi authentique, la foi véritable, est une foi qui produit des œuvres. Sinon, notre foi ne serait que théorique, elle serait une foi morte. Et si nous sommes sauvés par grâce, le Seigneur nous a choisis pour pouvoir accomplir par nous sur la terre les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous désirons donc nous laisser former dans ce monde par celui qui nous a sauvés et dont le salut qu'il nous donne, c'est lui-même. Ce n'est pas quelque chose, le salut. Le salut, c'est sa personne. Être sauvé, c'est vivre avec cette personne. C'est vivre déjà en lui. Alors, pour aborder notre cantique des cantiques, nous allons nous mettre à l'école de celui qui est notre salut et qui est Jésus. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, nous avons son invitation à entrer à son école. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui vous fatiguez, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi ou recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Et il ajoutait, mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Donc, nous allons être, et moi avec vous, à l'école de Jésus dans ces journées. Mais pour pouvoir apprendre à l'école de Jésus, quels doivent être nos sentiments? Chapitre 18 de Matthieu, c'est toujours Jésus qui nous enseigne. À ses disciples qui se demandaient lequel était le plus grand dans le royaume des cieux, verset 2 du chapitre 18, Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, et nous avons un petit enfant ici qui incarne cette parole, c'est Marie-Pierre, qui a bien sa place au camp. Et il place cet enfant au milieu d'eux. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Non seulement nous n'y entrerons point, mais nous ne discernerons rien du royaume des cieux. Donc, nous désirons lire la parole, être en face de cette parole avec un cœur d'enfant, puisque c'est le Seigneur qui nous le demande. Une troisième chose à laquelle nous veillerons, parce que c'est toujours Jésus qui nous parle, dans Luc, au chapitre 8, au verset 18e, nous trouvons cette parole de Jésus, toujours à ses disciples. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Nous allons donc lire la parole. Nous allons, en même temps que nous la lirons, nous allons l'écouter. Et nous voudrions avoir une oreille vraiment sensible. Nous ne voudrions pas simplement lire tout en étant distrait, lire tout en étant ailleurs. Nous allons vraiment écouter. Et nous allons laisser cette parole pénétrer nos cœurs. Mais Jésus nous dit qu'il faut prendre garde, parce qu'on peut écouter d'une oreille. Mais nous voulons écouter pour pouvoir nous rappeler et pour mettre en pratique. Et peut-être que nous devrons écouter plusieurs fois la même parole jusqu'à ce qu'elle nous devienne familière. Et dans notre étude, nous allons nous souvenir que Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 17 à 20, que un seul iota ou un seul trait de lettre de ce que nous allons lire ne passera point, que tout ne soit accompli. Nous croyons que tous les mots ont un sens dans l'écriture, qu'il n'y a rien qui soit de trop. Nous allons prendre la parole dans sa totalité. Je ne dis pas que nous comprendrons tout, mais nous chercherons à saisir pourquoi telle pensée est exprimée par tel mot et par telle lettre. Vous me direz, mais alors ça sera très difficile. Eh bien, tout de suite, pour vous rassurer, encore une autre parole de notre Maître. Nous l'avons déjà citée hier soir, chapitre 11 de Matthieu, verset 25. Jésus loue son Père en disant, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Donc, nous allons être dans cette attitude des petits-enfants qui ne mettent pas en doute ce que leurs parents leur disent quand ils sont petits. Et comme il nous l'enseigne encore dans Matthieu 13, versets 51 à 52, quand nous lirons à l'école de Jésus, nous réaliserons ce qu'il dit. Nous nous poserons toujours cette question. Avez-vous compris toutes ces choses ? Nous nous demanderons, est-ce que vraiment nous avons compris ces versets? J'espère que vous pourrez dire oui. Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous allez découvrir ou redécouvrir des choses ancienne, oui, vous saviez déjà, mais vous allez en apprendre des nouvelles. Et c'est pas parce que ces choses vous paraîtront nouvelles qu'elles ne sont pas vraies. De ce trésor inépuisable qu'est le cœur de Jésus, nous allons recevoir un enseignement peut-être tout à fait nouveau pour nous, mais qui sera en bénédiction pour nos âmes. Et si nous mettons cette parole en pratique, bien, nous saurons quelle est la vérité, parce qu'elle s'incarnera en nous Et nous pourrons dire, oui, c'était et c'est la vérité. Toujours à cette école de Jésus, quand nous lirons dans l'Ancien Testament certaines paroles, nous nous souviendrons que Jésus est venu pour éclairer ces paroles. Et nous accepterons qu'il ait pu développer l'enseignement de Moïse. Ainsi disait Jésus, Moïse vous a dit ceci, mais moi, je vous dis. Et nous reconnaîtrons qu'il y a dans la révélation de Dieu une progression. Et c'est toujours à la lumière de ce que dit Jésus que nous allons comprendre soit les paroles de Moïse, soit celles d'un psalmiste, celles des prophètes antérieurs ou des prophètes postérieurs. Nous allons toujours nous référer à l'autorité de Jésus et à l'éclairage que Jésus nous a donné sur ses paroles, ainsi qu'à l'éclairage qu'il a donné à ses apôtres, que ce soit Pierre ou que ce soit Paul. C'est ainsi que nous pourrons saisir la profondeur des Écritures. Et je pense spécialement à cet enseignement de Jésus ressuscité, et qui, sur le chemin d'Emmaüs, rencontre deux disciples qui sont retournés déçus de Jérusalem, bouleversés par tous les événements qui s'y étaient produits. Et Jésus les approche, vous connaissez le récit, Luc 24, verset 27, et il est dit qu'il a commencé par leur expliquer dans toutes les Écritures. Donc, les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est spécialement l'Ancien Testament, la loi, les psaumes et les prophètes, ce qui pour les Juifs est nommé simplement la Bible. La Bible pour les Juifs, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus a expliqué à ses deux disciples les choses qui le regardaient, les choses qui le concernaient. Donc, quel que soit le livre que nous lisons dans l'Ancien Testament, nous rechercherons la personne de Jésus. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Nous n'allons pas rechercher beaucoup de choses, beaucoup de pensées pour avoir une très grande richesse de connaissances, mais il sera question pour nous de revenir toujours au centre, à la personne du Christ. Et puis, s'il y a des choses qui nous paraissent incroyables, nous nous souviendrons que du temps où Jésus était sur la terre, les Sadducéens en particulier trouvaient que les Écritures donnaient des pensées incroyables. Par exemple, l'idée de la résurrection qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Alors ils essayaient de tendre des pièges à Jésus en lui racontant cette histoire d'une femme qui avait eu 7 maris et les uns après les autres ils étaient morts, elle survit à tout. Et puis finalement, évidemment, comme elle suit aussi le chemin de toute la terre, elle-même meurt. Alors ils disent, dans la résurrection, de qui sera-t-elle la femme, puisque toutes l'ont eue? Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez qu'on peut être juif, qu'on peut se glorifier de connaître les Écritures, comme on peut se dire évangélique et avoir la Bible en main ou la Bible toujours dans notre poche ou des textes bibliques partout collés devant, derrière, dessus, dessous. N'est-ce pas? C'est la grande mode aujourd'hui. Jésus à toutes les sauces. Le nom de Jésus à toutes les sauces. C'est terrible. Le nom de mon Sauveur, le nom qui sauve, le nom au-dessus de tout nom, le nom partout, à toutes les sauces. Et on pense qu'on évangélise ainsi. Que le Seigneur nous parle et nous corrige et nous instruit. pour que nous puissions, pour le peu de temps que nous sommes encore dans ce monde, le glorifier. Ces gens ne connaissaient ni les Écritures, tout en prétendant connaître, mais pas de la vraie connaissance. Ils étaient informés, mais ils n'avaient pas une relation, ils n'étaient pas identifiés avec cette parole. Or, la foi, justement, la foi nous identifie à toutes les promesses de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? La foi qui nous identifie aux promesses de Dieu, ça veut dire que c'est une foi qui est exaucée. Nous croyons et nous vivons ce que nous croyons. C'est pourquoi nous avons cru et c'est pourquoi nous parlons. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous pouvons en parler parce que nous réalisons que ces choses sont vraies. Vous errez, ne connaissons ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Au ciel, on ne se marie pas, ni ne se donne en mariage, mais on est comme les anges de Dieu. Et il ajoute que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous vivent. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est donc le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de toute l'Écriture. Et nous lisons toujours dans ce chapitre 24 de Matthieu que les disciples, en entendant Jésus leur expliquer les choses qui le concernaient, ont pu dire, une fois qu'ils l'ont reconnu dans la fraction du pain à Emmaüs, « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures ?» Eh bien, ce que nous désirons dans ce camp, c'est que vos cœurs, en méditant la parole de Dieu, puisse devenir brûlant pour le Seigneur dans un monde où il fait si froid. Le froid de l'incrédulité, le froid de l'apostasie, c'est-à-dire du rejet ouvert de toutes les vérités du christianisme, ce froid descend sur ce monde dans nos pays, et nous voudrions que vos cœurs puissent brûler, et que les âmes qui ont froid dans ce monde, ces âmes qui sont sans Dieu et sans espérance, puissent, en vous rencontrant, trouver un peu de cette chaleur qui vient d'en haut, et qui leur communiquera vraiment ce désir de connaître celui qui brûle en vos cœurs. Et toujours dans ce chapitre 24, il est dit qu'il leur ouvrit l'intelligence. Et c'est là une de nos demandes. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Mais évidemment, si nous étions laissés à nous-mêmes, nous ne pourrions pas comprendre les Écritures. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, puis il y a des choses qui nous heurtent. Mais le Seigneur le savait, et il disait à ses disciples, « Voyez-vous, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capables de le supporter maintenant. » Mais il leur faisait la promesse que, après son départ, qu'il les navrerait, il leur enverrait un autre consolateur. Le Saint-Esprit, et qui les conduirait dans toute la vérité, et qui prendrait les choses qui étaient à lui pour nous les annoncer. C'est merveilleux. Et je pense que dans cette semaine, dans ces 15 jours, le Saint-Esprit, et qui a été donné le jour de la Pentecôte, et qui est promis à tous ceux qui lui obéissent, le Saint-Esprit qui est donné, comme le dit Pierre, à tous ceux qui ont confessé leurs péchés, qui ont cru au Seigneur Jésus et qui obéissent dans le sens qu'ils ont saisi aussi leur mort avec le Christ pour vivre d'une vie nouvelle, ce qui est symbolisé dans le baptême, et nous aurons des baptêmes qui nous permettront aussi de vivre cet enseignement, eh bien, à ceux qui lui obéissent, il est dit que le don de l'Esprit, vous recevrez le don de l'Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, autant qu'il y en a qui viendront à lui. Nous avons donc pour guide le Saint-Esprit, qui sera aussi notre mémoire et qui va nous éclairer pas à pas. Et vous savez comment Pierre et Jean, étant après la Pentecôte remplis du Saint-Esprit, ont eu un témoignage absolument différent de celui qu'ils avaient quand Jésus était avec eux. Jésus était avec eux, mais il n'était pas encore en eux. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur est venu faire son habitation dans leur cœur et qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit. Et si vous voyez Étienne, par exemple, le jour même de sa mort, il était encore en pleine force, en pleine jeunesse, mais il était rempli du Saint-Esprit. Son visage était semblable à celui d'un ange. Pourquoi ? Parce que ses pensées étaient aux choses d'en haut. Et alors, sur lui, le ciel s'est ouvert et il a pu rendre témoignage qu'il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. Mais quand vous continuez le livre des Actes, vous voyez que des païens, par exemple, qui avaient entre les mains la Bible, je pense à l'eunuque d'Éthiopie, au chapitre 8 des Actes, il était venu à Jérusalem pour adorer, et puis il retournait dans son pays avec le livre d'Ésaïe. Et il en faisait la lecture à haute voix. C'est pourquoi je vous exhorte souvent, ceux qui ont affaire avec moi, je vous exhorte souvent à lire la Bible à haute et intelligible voix, pour que, en même temps que vous la lisez, elle entre par vos oreilles. Ça nous aide beaucoup dans nos distractions. Et l'eunuque lisait dans son char ce livre d'Ésaïe. Et il ne comprenait pas. Il se posait la question, mais de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et quand on a un besoin, mes amis, le Seigneur est tout proche. Mais est-ce que vous avez des besoins? C'est cela. On peut réunir des foules, mais des foules qui n'ont pas des besoins. On peut les impressionner et leur dire d'accepter ce qu'on veut leur donner. Ils sont assez polis pour dire oui. Mais ils n'ont pas de besoin réel. Alors, au bout de peu de temps, quelque chose dont on n'a pas besoin, on le laisse de côté. C'est ce qui explique tout le déchet des réunions d'évangélisation avec les méthodes que nous employons aujourd'hui. Mais quand il y a des besoins réels, ce dont on a besoin, on y tient et on le garde. Cela nous est cher et cela finalement fait partie de nous-mêmes. Mais si on n'a pas eu de besoin, eh bien je veux croire que vous avez ce besoin de comprendre. Quand l'eunuque a eu ce besoin dans son cœur, eh bien Philippe lui a été envoyé immédiatement. Philippe lui est envoyé et il s'approche, l'Esprit le conduit. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique? Eh bien voilà, quelqu'un va vous expliquer certaines choses. Et il le fait monter à côté de lui et il a dit, commençant par cette parole d'Ésaïe, il lui annonça quoi? Qui? Quelle doctrine? Pas une doctrine. Il lui annonça Jésus. Il lui annonce une personne. Et alors, ce nom qui est au-dessus de tout nom se révèle être le seul nom dont Pierre a parlé en disant, c'est le seul nom qui soit donné sous le ciel par lequel il faille être sauvé. Et en si peu de temps, l'eunuque est saisi par l'Esprit de Dieu, ils arrivent près du nom, et l'eunuque s'écrie, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et ensemble, ils descendent dans l'eau, et l'eunuque est baptisé. Et ensuite, le serviteur disparaît, mais l'eunuque continue son chemin, sanglotant. De la perte de celui auquel il s'était tellement attaché. Non, tout joyeux. Nous sommes des gens qui doivent savoir qu'ils vont être effacés. Personne, nous l'avons vu au camp précédent, personne ne demeure. Nous, nous passons. Moïse est mort. Josué est mort. Les juges sont morts. Qu'est-ce qui demeure? Le Seigneur. Et Jean-Baptiste l'avait dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors, il continue sa route. Tout joyeux. Et voyez-vous, l'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, eh bien, lui est devenu, par la grâce de Dieu, un homme qui a exposé les Écritures aux païens. Et nous lisons dans le chapitre 17 des Actes qu'en exposant les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il démontrait au peuple auquel il enseignait que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie promis dans toutes les Écritures. Maintenant, d'une façon générale, notre attitude devant l'Ancien Testament, je vais vous lire ou vous citer quelques versets que vous pouvez reprendre. Romains, chapitre 15, versets 4 à 6. Tout ce qui a été écrit d'avant, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, donc nous aurons comme bénéfice de notre étude la patience, qui ne vient pas toujours par des tribulations, mais par la simple lecture de l'Écriture, la patience nous est aussi donnée. Et puis, l'Écriture nous console. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venu. Peut-être qu'il y a une âme qui a besoin d'être consolée. Bien, nous croyons qu'elle sera consolée dans cette semaine par les Écritures pour que vous possédiez l'espérance. Il est question vraiment de posséder l'espérance, une espérance qu'on ne va pas perdre. Et il est parlé ensuite du Dieu de la persévérance et de la consolation qui veut nous donner dans ce camp d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ce sera une chose merveilleuse. Si vous vous laissez faire par le Seigneur, Dieu sera assez persévérant pour achever l'œuvre qu'il s'est proposée. À nous de nous laisser faire. Je le dis souvent, et je le répète, servir Dieu, ce n'est pas faire des choses pour le Seigneur, c'est se laisser faire par lui. Et si vous vous laissez faire par lui, vous cessez vos luttes vaines, vous ne serez plus de ces gens fatigués au service du Seigneur, de ces gens qui se disent crevés tout en servant le Seigneur. Mais vous ne serez pas non plus gonflés. Vous serez dans l'équilibre du Christ, vivant de lui heure après heure. Nous lisons maintenant dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, où il est dit que toutes les choses qui sont arrivées à Israël, leur sont arrivés, verset 6, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et puis, verset 11, il est dit que ces choses que nous lisons dans les livres de Moïse ou ailleurs, leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, tout ce que nous allons voir dans le Cantique des Cantiques, nous croyons que cela a été écrit pour notre instruction. Mais comment est-ce que nous pourrons comprendre ces livres? C'est en nous souvenant de ce qui est dit dans le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, toujours, où, verset 9, où il est dit ceci: ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ce que nous allons découvrir, c'est uniquement par le Saint-Esprit, non pas par notre imagination. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Souvenez-vous bien de cela, hein? Parce que quand nous lisons le Cantique des Cantiques, on peut le lire avec l'esprit du monde. Et alors, vous connaissez l'interprétation. Si vous lisez le Cantique des Cantiques avec l'esprit du monde, vous profanerez ce livre. Nous avons reçu les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par l'Esprit qui vient de Dieu que nous les avons reçues. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour communiquer des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Et je cite encore dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3e, il nous montre que ce qui est le grand obstacle pour les Juifs quand ils lisent les Écritures et qui ne la comprennent pas, cette Écriture, c'est parce qu'ils ont comme un voile. Et peut-être que vous découvrirez aussi que jusqu'à présent, même en lisant le Cantique des Cantiques ou un autre livre, vous aviez comme un voile. Comment est-ce que le voile est ôté? Quand on se tourne vers le Seigneur. Quand vous regardez à Jésus, quand vous cherchez Jésus dans l'Écriture, le voile se dissipe. Et il y a un voile qui sera ôté sur le Cantique des Cantiques quand vous y chercherez la personne du Seigneur. Et alors, en voyant la personne du Seigneur, vous serez transformé à son image. Et qu'est-ce que ça va vous donner à vous? Être transformé à l'image du Seigneur, c'est ressembler à qui? Vous chantez souvent, te ressembler Jésus. Mais si vous voulez que ce soit vrai, eh bien, regardez-le, lui. Vous serez transformé à son image. Et quand lui parlera de vous, il parlera de votre beauté. Mais quelle sera votre beauté? C'est la sienne. Il regarde sa beauté en vous. Et c'est pourquoi il peut parler de sa toute belle. C'est ça qui est merveilleux. Il regarde en vous sa beauté. Alors vous, vous allez vous regarder en lui. Mais vous ne vous enorgueillirez jamais. Mais vous le regarderez lui. C'est quelque chose qui change complètement une vie. Être transformé à son image. Et alors nous demandons que vraiment Satan soit vaincu parmi nous. Car c'est lui qui a aveuglé les pensées des incrédules pour qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face du Christ. Toutes les perfections invisibles de Dieu ont été manifestées sur la face du Christ. Et c'est en Christ que nous voyons qui est Dieu et que nous comprenons un peu ce qu'est notre Dieu. Encore 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole, elle ne va pas vous laisser intacte. Elle va vous transformer. Mais il faut que vous la receviez comme étant la parole de Dieu. Et cette parole sera agissante en vous qui croyez. Quel que soit le chapitre ou le livre que vous êtes en train de lire. Et si nous vous donnons comme tâche un peu de lecture, je vous cite ce que Paul disait à son enfant dans la foi à Timothée, chapitre 4 de la première épître à Timothée, verset 12. Paul pouvait dire, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Et voyez-vous, verset 15e, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents à tous. » Vous voulez faire des progrès dans la connaissance de Dieu? Attachez-vous à la lecture de la parole de Dieu. Mais non pas comme vous le faites peut-être, avoir une petite lecture matinale, c'est très bien. Mais comme ça, hein, c'est le paratonnerre. Il ne va rien vous arriver. Vous avez lu votre Bible ce matin, alors. Vous êtes assuré. Mais ce n'est pas cela. Il faut que vous soyez comme Jérémie qui dit « Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai mangées. » Chapitre 15 de Jérémie. « Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. » Il faut que cette parole devienne une nourriture. Et alors, c'est le dernier texte. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc nous allons être enseignés. Deuxièmement, pour convaincre. Nous avons besoin dans un monde pareil d'avoir des convictions. Or aujourd'hui, les gens ont des opinions. Mais les opinions, elles changent avec toutes les modes. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui doivent avoir des convictions. Et nous demandons que dans ce camp, le Seigneur vous donne des convictions inébranlables. Et vous savez, ce n'est pas parce que vous aurez des convictions que vous deviendrez impossible pour les autres. Ce n'est pas vrai. Vous leur serez utile. Vous serez plein de tendresse, plein de compréhension, parce que vous n'avez pas toujours été convaincu. Mais ces convictions rempliront votre cœur d'allégresse. Et voyez-vous, ce sera une occasion de ne plus pécher dans un certain domaine. Parce que quand nous agissons sans conviction, qu'est-ce que nous faisons? Nous péchons. Celui qui n'a pas de conviction, pour lui, c'est péché. Eh bien, que le Seigneur nous garde aussi de ce péché, qui est le manque de conviction. Alors, nous aurons besoin d'être corrigés. Il va nous convaincre, mais par sa parole, il va aussi nous corriger. Et voyez-vous, j'accepte cette correction. Plus j'avance, la parole me saisit et me corrige. J'avais pensé faire ceci, puis le Seigneur me dit non, c'est pas comme ça. Donc, nous pouvons toujours nous proposer les choses devant le Seigneur, mais en disant, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, alors Seigneur, dans ta grâce, dispose comme tu le voudras. Alors, je prends les corrections du Seigneur comme sa disposition, comme justement la preuve qu'il est avec moi. Moi, j'avais pensé cela, mais lui avait pensé autrement, et je l'accepte. Alors, au lieu de me heurter contre la volonté de Dieu, je me plie à sa volonté, et alors, je suis heureux. Car quand on accepte la volonté de Dieu, on est délivré. Jésus nous en a donné la preuve. Quand il a pu dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, tout a été changé. Et en vue de quoi? Pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu c'est aussi la femme de Dieu, soit accompli. Voilà le but que Dieu a, c'est de vous rendre accompli et propre à quoi? À toute bonne œuvre. Parce que les œuvres sont nécessaires sur la terre. Pour quelle raison? Parce que le monde ne croira que ce qu'il voit. N'est-ce pas? Et Jésus l'a dit, hein. Il faut que le monde voit vos bonnes œuvres pour qu'il croie. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais pour nous les chrétiens, c'est par la manifestation d'œuvres qui sont produites par notre foi, par une foi vivante, que le monde sera attiré vers notre Dieu. Parce que sans cela, s'il ne voit pas nos œuvres, parce que le monde nous regarde, et voyez-vous, on reconnaît l'arbre à ses fruits, si nous n'avons qu'une théorie même biblique, fondamentaliste et tout ce que vous voudrez, vous écœurerez le monde avec votre religion piétiste, avec votre religion fondamentaliste. Le monde sera écœuré, se détournera de vous. Mais si vous avez ces œuvres et qui recommandent votre Père des cieux, montrant sa bonté, sa douceur, montrant sa grâce, mais aussi sa puissance, alors les gens seront attirés par l'Évangile. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la manière dont nous allons aborder le cantique des cantiques. Maintenant, pour vous permettre de vous dérouiller ou de changer de position, ceux qui ont trop de soleil vont à l'ombre, ceux qui ont froid vont au soleil, et nous allons faire simplement la lecture du Cantique des Cantiques. C'est pour que nous ayons tous le même texte et que nous puissions comparer peut-être aussi avec d'autres traductions. Mais dans ce texte-là, il n'y a pas de division, il n'y a pas de rajout, de sorte que le Saint-Esprit pourra mieux nous conduire. Nous allons faire très simplement la lecture. Vous suivez dans le texte, vous pouvez même prononcer les choses pour vous, mais nous voulons simplement chanter ce petit cantique. Ouvre mes yeux, et que je voie les merveilles qui sont dans ta loi. Ouvre mes yeux, et je vais dans ta loi, qui sont dans ta loi. C'est le psaume 119, verset 18. Bien, nous allons faire cette lecture. Il est question de 117 versets dans ces 8 chapitres, de 1251 mots et de 5148 caractères, selon les Massorites. C'est un cantique que tous ne peuvent pas chanter. Ce sont seulement ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent, comme nous aurons l'occasion de le voir. Il y a un cantique dont il est parlé dans l'Apocalypse que ne pouvaient chanter que ceux qui suivaient l'agneau ou qui l'aillent. Et pour le lire, nous voulons nous mettre dans l'attitude de Moïse devant le buisson ardent, ôter les sandales de nos pieds, car nous sommes sur une terre sainte. Nous voulons aussi demander que des écailles tombent de nos yeux, que nous ayons un collyre pour oindre nos yeux, afin que nous puissions voir. Le cantique des cantiques qui est de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin, tes parfums sont d'agréable odeur, ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'a amené dans ses chambres. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elle t'aime avec droiture. Je suis noire, mais je suis agréable, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne qui est à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme, où tu paies ton troupeau? Où tu le fais reposer à midi? Car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes, sors sur les traces du troupeau et fais tes chevreaux près des habitations des bergers. Je te compare, mon ami, à une jument au char du Pharaon. Tes joues sont agréables avec des rangées de joyaux, ton cou avec des colliers. Nous te ferons des chaînes d'or avec des paillettes d'argent. Pendant que le roi est à table, mon nard exhale son odeur. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il passera la nuit entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'Engedi. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Voici, tu es beau, mon bien-aimé. Oui, tu es agréable. Oui, notre lit est verdoyant. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris des cyprès. Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées.
comme le lys entre les épines, tel est mon ami entre les filles. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assis. Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. La voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, sautons sur les montagnes, bondissons sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde par les fenêtres, il regarde à travers les treillis. Mon bien-aimé m'a parlé et m'a dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, la saison des champs est arrivée, et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. Le figuier embaume ses figues d'hiver, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, qui te tient dans les fonds du rocher, dans les cachettes des lieux escarpés, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui, qui paît parmi les lys, jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient. Tourne-toi, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches, sur les montagnes de Béthère. Sur mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai maintenant et je ferai le tour de la ville, dans les rues, dans les places. Je chercherai celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon âme aime? À peine avais-je passé plus loin que j'ai trouvé celui qu'aime mon âme. Je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché, que je ne l'ai amené dans la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens, et de toutes sortes de poudres des marchands? Voici son lit, celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent, d'entre les hommes forts d'Israël. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Il a fait ses colonnes d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de ses fiançailles, au jour de la joie de son cœur. Voici, tu es belle, mon amie. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil d'écarlate, et ta bouche est agréable. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour y suspendre des armures. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les lys. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, et en toi il n'y a point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme ont tes amours, ma sœur, ma fiancée, que tes amours sont meilleurs que le vin et l'odeur de tes parfums plus que tous les aromates. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel, sous ta langue il y a du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes plantes sont un paradis de grenadiers et de fruits exquis, de hennés et de nards et de safran, de roseaux odorants et de cinnamode, avec tous les arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Réveille-toi, Nord, et viens, Midi, souffle dans mon jardin pour que ses aromates s'exhalent, que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates. J'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, buvez abondamment, bien-aimés. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, et de mes doigts la myrrhe limpide sur les poignées du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait passé plus loin, mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. Je l'appelais, mais il ne me répondit pas. Les gardes qui font la ronde par la ville me trouvèrent. Ils me frappèrent, ils m'ont blessé. Les gardes des murailles m'ont ôté mon voile de dessus moi. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Son bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Sa tête est un or très fin. Ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Ses yeux comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baignés dans le lait bien enchâssé. Ses joues comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées. Ses lèvres, des lys distillant une myrrhe limpide. Ses mains, des rondelles d'or où sont enchâssées des chrysolites. Son ventre, un ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes, des colonnes de marbre blanc reposant sur des socles d'or fin. Son port, comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais est plein de douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour cueillir dans les jardins, et pour paître dans les jardins, et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de Galad. Tes dents comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Ta joue est comme un quartier de grenades derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue, elles l'ont dit bienheureuse. Les reines aussi, et les concubines, elles l'ont louée. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noisettes pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, et que nous te voyions. Que verriez-vous dans la Sulamite? Comme la danse de deux bandes. Et je dis ici simplement une chose, dans le texte original, c'est comme la danse de Mahanaïm. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux, ouvrage des mains d'un artiste. Ton nombril est une coupe arrondie, où le vin aromatique ne manque pas. Ton ventre, un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux pharons jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme des étangs qui sont à Hesbon, vers la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas. Ta tête sur toi, comme le Carmel, et les cheveux de ta tête, comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, dans tes délices. Ta taille ressemble à un palmier, et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux, et que tes seins soient comme les grappes de la vigne, et le parfum de ton nez comme des pommes, et ton palais comme le bon vin qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons aux champs, passons la nuit dans les villages. Nous nous lèverons dès le matin pour aller aux vignes, verrons si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers s'épanouissent. Là, je te donnerai mes amours. Les mandragores donnent leur parfum et à nos portes, il y a tous les fruits exquis, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Oh, que tu fusses pour moi comme un frère, et qui ait sucé les mamelles de ma mère. Si je te trouvais dehors, je t'embrasserais, sans qu'on m'en méprisât. Je t'amènerais, je te produirais dans la maison de ma mère. Tu m'instruirais. Je te ferai boire du vin aromatisé, du jus de mes grenades. Sa main gauche serait sous ma tête et sa droite m'embrasserait. Je vous adjure, fille de Jérusalem, pourquoi éveilleriez-vous et pourquoi réveilleriez-vous mon amour avant qu'elle le veuille? Qui est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté dans les douleurs. Là, celle qui t'a enfanté a été en travail. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie, cruelle comme le shéol, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jas. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergent pas. Si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait en un profond mépris. Nous avons une petite sœur, elle n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle une demeure d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis une muraille, et mes seins sont des tours. Je fus alors à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun devait apporter pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne qui est à moi est devant moi. À toi, Salomon, les 1000 pièces et 200 pour ceux qui en gardent le fruit. Habitante des jardins, les compagnons sont attentifs à ta voix. Fais que je l'entende. Fuis, mon bien-aimé, et sois semblable à une gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. Voilà. Nous venons de faire la lecture de ce merveilleux poème, et je dis seulement ceci. Il y a 3 interprétations, 3 courants principaux pour parler du Cantique des Cantiques. Le premier courant, c'est l'interprétation profane et naturaliste. Le deuxième courant, c'est l'interprétation littéraliste. Et le troisième courant, l'interprétation allégorique. Alors, à vous de savoir, sous le regard de Dieu, quelle interprétation vous allez suivre pour essayer de comprendre le Cantique des Cantiques. Ce soir, nous allons méditer les 4 premiers versets du chapitre 1er. Et je vous demande, dans la journée, de lire, de vous imprégner de ces 4 premiers versets et de réfléchir, prenez un papier peut-être, notez ce que ces versets vous disent. Quelle pensée ces textes mettent dans votre cœur, quelle qu'elle soit. Il y a une association d'idées qui vous viendra. Puis demandez-vous, mais qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que vraiment ça me dit quelque chose ou ça ne me dit rien? Soyez vrai. Soyez personnel. N'ayez aucune honte. Nous sommes ici pour chercher à nous comprendre, à nous aimer, et à nous aider les uns les autres. Cette parole va être révélatrice de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, car voyez-vous, toute notre vie découle de notre pensée. Et je demande à Dieu que nous puissions saisir dans ce camp cette profonde vérité que Paul enseigne, qu'il faut que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance du Christ. Alors nous aurons une vie heureuse. Ce soir, vous aurez un moment pour vous exprimer, pour partager ce que le Seigneur vous aura montré sur ces 4 versets, et puis je vous ferai un court exposé de ce que nous croyons comprendre dans ces 4 versets. Et nous continuerons comme ça selon que l'Esprit nous le montrera.
Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons de ce que nous avons pu lire ce cantique des cantiques dans ce cadre et au milieu de ces cèdres. Ô Dieu, il n'y a personne qui soit comme toi. C'est vraiment merveilleux. Et nous voulons te demander que dans ce lit de verdure où nous sommes, nous puissions apprendre à t'aimer comme jamais nous ne t'avons aimé et que nous puissions comprendre qui est celui qui nous aime et qui nous a lavés dans son sang et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu éternel.